code d'économie.
La promulgation du code des hydrocarbures fait encore la une de l'édition de ce soir et nous écouterons le ministre des hydrocarbures qui nous explique pourquoi le secteur pétrolier ne contribue pas assez au budget de l'État. Alors que des investisseurs indiens proposent des services pour la relance de la MIBA au Kasaï oriental, en Ituri, des investisseurs ukrainiens tombés dans une embuscade annulent leur projet à cause de l'insécurité. Nous ferons le point dans quelques instants. Et nous reviendrons sur ce ping-pong entre le numéro 1 de la compagnie aérienne CAA et le ministre de l'économie. Ils ne s'accordent pas autour du respect de la grille tarifaire des billets d'avion. Bonsoir et bienvenue à tous. Une question en début de cette édition. Qu'est-ce qui fait que le secteur pétrolier ne contribue pas assez au budget de l'État congolais? Nous avons interrogé le ministre des Hydrocarbures dans une interview exclusive accordée à Radio Capi. Selon Crispin Atama, c'est parce que nous ne disposions pas d'un code qui pouvait gérer ce secteur. Mais la tendance va bientôt changer car la RDC dispose maintenant d'une loi qui porte régime général des hydrocarbures et qui gère ce secteur. Crispin Atama répondez aux questions d'Innocent Olinga.
Nous sommes dans un même bassin, mais nous n'avons pas la même superficie. La côte océanique de l'Angola, combien de kilomètres de longueur de largeur? Prenez la carte, vous allez constater, alors que chez nous, c'est 40 kilomètres seulement que nous exploitons. L'Angola, ça terme des milliers. Ça suffit qu'il n'a plus de possibilité de trouver le pétrole. Il en est de même du Congo-Brazzaville. Ils exploitent dans l'offshore. Ce n'est pas sur la terre ferme. Nous avons la terre ferme, apparemment, qui n'a pas suffisamment de pétrole, mais reste à détruire. Terminé. Mais l'Angola a un bassin côtier très large avec plusieurs possibilités par rapport à nous.
Et c'est ce qui fait que le secteur pétrolier contribue peu au budget de l'État?
Nous avions été bloqués depuis 2008 sur recommandation du Parlement. Il ne faut pas attribuer de blocs pétroliers parce que nous ne disposions pas d'accord d'un code qu'il faut pour gérer le secteur. Maintenant, la loi qui porte le régime général des hydrocarbures est votée. Une loi qui a été préparée et des standards internationaux. C'est à partir de cela que nous pouvons maintenant reprendre la relance du secteur. Il y a beaucoup de bassins sédimentaires qui sont restés en assez chers parce que nous attendons cette loi-là. Prenez tous les grabins Tanganyika, Mouero, Pemba, la cuvette centrale, même une partie du bassin côtier. On n'a plus attribué parce que nous respectons les instructions du Parlement. Il faut du temps parce que le pétrole, ce n'est pas comme les diamants avec une bêche où vous attrapez. Il faut donc attribuer des blocs, faire des recherches 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois même 10 ans pour commencer à produire. Donc le pétrole doit jouer un rôle majeur dans la relève de la RDC. Le Congo-Brazza, le Gabon, la Guinée équatoriale, tous ces pays qui produisent le pétrole émergent parce que c'est une ressource naturelle sûre.
Et nous complétons ce dossier avec des explications sur le pétrole. Nadine Foulantimba.
Le pétrole vient du mot grec Petra, qui signifie roche, et du mot latin oleum, qui signifie huile. En fait, le pétrole est un liquide d'origine naturelle, une huile minérale, composée d'une multitude des matières organiques, essentiellement des hydrocarbures. L'exploitation de cette source d'énergie fossile et d'hydrocarbures est l'un des piliers de l'économie industrielle contemporaine. En RDC, on trouve du pétrole dans sa partie est, où des indices sérieux ont mis en évidence la présence de ce produit dans les zones frontalières. La RDC l'Ouganda se partage une quantité importante du pétrole dans le lac Albert. L'Ouganda exploite depuis plus de 10 ans alors que la RDC continue la prospection. En Ituri, dans l'ex-province orientale, 5 blocs ont été délimités dans les grabens albertines. Le bloc 3 situé près du lac Edouard a été attribué à l'entreprise française Total pour l'exploration et le bloc 4 non encore attribué. On trouve aussi du pétrole dans le lac Kivu et dans la province du Congo central. Ici aussi, les pétroles pris en sandwich entre la province angolaise de Cabinda et le Congo central de la RDC est exploité quotidiennement en grande quantité par l'Angola pendant que la RDC traîne toujours le pas. Des sources crédibles parlent également de la présence de ce produit dans la zone qui s'étend entre le Bandundu, les deux anciens Kasaï et l'Équateur. La quantité du pétrole qu'on trouve un peu partout en RDC n'est pas ou presque pas connue. Voilà qui motive l'activisme des entreprises pétrolières qui se bousculent aujourd'hui pour entrer dans ce secteur. De toutes les entreprises pétrolières présentes en RDC, seul Perenco exploite et produit 52 000 barils par jour dans le bassin côtier à Mwanda dans le Congo central, 15 000 barils en onshore et 10 000 en offshore, moins loin de l'Angola qui produit plus de 100 000 barils le jour. Ces déficits étaient dû, selon les ministres des hydrocarbures, dans une interview exclusive accordée à Radio Capi, au fait que la RDC ne disposait pas encore d'un code qui pouvait gérer les secteurs pétroliers. Mais la tendance va bientôt changer, car la RDC dispose maintenant d'une loi qui porte au régime général des hydrocarbures et qui gère ces secteurs. En Ituri, des investisseurs ukrainiens sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. C'était en Ngoté, une localité située à une centaine de kilomètres au nord de Bounia, en territoire de Mahagi. Selon leur chauffeur congolais qui le rapporte ce lundi à Bounia, ces bandits ont dévalisé tout ce qui était dans leur véhicule. Ils étaient sur le chemin de retour à Kampala, où ils sont basés. Cette situation a découragé ces investisseurs qui ont décidé de ne plus revenir au Congo suite à ce qu'il qualifie d'insécurité. Écoutons le chauffeur et collaborateur de ces investisseurs au micro de Delvin Waïsala.
Ils ont leur compagnie à Kampala, mais ils étaient venus pour d'autres affaires, voir comment commencer d'autres activités ici. C'est juste en dépassant Ngoté, en territoire de Mahagi, qu'un groupe de gens qui se sont identifiés comme fidèles à Peter Karim ont surgi et nous ont demandé des cartes. Ils ont ravi nos téléphones et un petit sac aux mains de ces étrangers. Bon, ils sont venus investir au Congo, mais vu cette situation, ils se sont découragés.
Pendant ce temps au Kasaï-Oriental, une délégation de la firme indienne PML séjourne à Mbujimayi depuis la semaine dernière. Elle vient proposer des services à la société minière de Bakwanga Miba en vue de sa relance. Des rencontres sont organisées avec les responsables de la Miba et les autorités provinciales dans l'éventualité de la signature d'un contrat entre la partie indienne et la minière de Bakwanga. Dites-nous en plus, Chris Mkand.
Le chef de la délégation indienne explique qu'après un premier contact, il s'avère qu'il y a beaucoup d'opportunités qui militent en faveur d'un partenariat avec la MIBA. La firme PML est capable de donner à la MIBA des enjeux susceptibles d'accroître très rapidement sa production et par ricochet améliorer l'économie régionale, affirme-t-il. Et d'ajouter que si tout se passait comme prévu, à partir de la signature du contrat, toute la procédure pourrait prendre 6 mois avant la livraison des premiers engins à la MIBA. De son côté, le professeur de Doné Mbaye Chakani Chabantou, directeur général ad interim de la MIBA, indique que tout va passer par les quitus de l'actionnaire majoritaire de la MIBA, le gouvernement congolais. Cela est l'un des grands préalables de 15 que posent les investisseurs indiens avant de consentir à disponibiliser plus de 30 millions de dollars américains pour ce projet. Un prêt remboursable dans 5 ans avec une année de grâce. Outre son quitus, le gouvernement congolais devrait donner sa contribution ou une part de son appui financier dans cet arrangement. Le conseil d'administration de la MIBA devrait également autoriser la signature du protocole d'accord. Notons que PML fait partie d'une grande industrie des constructions mécaniques en Inde. Il fabrique des engins pour l'armée indienne, pour des entreprises minières et pour celles des constructions des métros. Elle exporte ses produits dans plus de 60 pays du monde et collabore avec l'une des grandes banques de l'Inde. Signalons que depuis sa mise en place, il y a exactement une année et 2 mois, le nouveau comité de gestion de la MIBA multiplie des contacts à la recherche des moyens de relancer cette entreprise. Une première tentative d'un contrat d'amodiation avec la firme chinoise Fametal pour l'exploitation des gisements de diamants sous la rivière Sankuru est restée sans suite jusqu'à ce jour. Beaucoup d'espoir repose sur cette main tendue d'investisseurs indiens. Mbujimayi, Chris Mukonde, Écho d'économie.
En bref, l'ICCN lutte contre la pêche illicite sur le lac Upemba. Plus de 130 moustiquaires utilisés comme filets de pêche ont été incinérés ce week-end dans le territoire de Bukama, province du Haut-Lomami. Ils ont été saisis entre les mains des pêcheurs de la localité de Nyonga, en pleine activité sur le lac Upemba. Le chef du secteur adjoint du parc national Upemba Sud, qui a mené cette opération, se plaint de la poursuite de la pêche illicite malgré les séances de sensibilisation. Au Nord Kivu, ce sont les organisations de la société civile environnementale de la région des Grands Lacs qui s'inquiètent de l'exploitation prochaine du pétrole par l'Ouganda dans le lac Édouard au bloc Ngagi qui partage ses limites avec le parc national des Virunga de la RDC. Dans une lettre ouverte adressée aux chefs des gouvernements ougandais et congolais, ces organisations s'indignent du fait que les conséquences de cette exploitation, bien qu'effectuée en Ouganda, va sûrement se propager dans la partie RDC, notamment la pollution. Le lac Édouard étant partie du parc national des Virunga, est un site protégé et l'un des patrimoines de l'UNESCO. Écho d'économie. Le ministre de l'économie a traduit en justice le patron de la compagnie aérienne CAA dans sa plainte datant du 4 août dernier auprès du procureur général de la République. Modeste Bahati accuse David Blattner d'imputation dommageable et de calomnie à son endroit, et ce dans le dossier de fixation de la grille tarifaire des billets d'avion. Innocent Linga, qui vient de nous rejoindre, nous en dit plus sur cette affaire. Bonsoir Innocent.
Bonsoir Mireille. En effet, dans sa correspondance datant du 23 juillet dernier, adressée à Modeste Bahati avec copie pour information au président de la République, au Premier ministre et aux deux présidents du Parlement, Blattner a accusé Bahati de vouloir augmenter les prix des billets d'avion alors que sa compagnie le veut à la baisse. Allégation qui a frustré ces derniers et l'a poussé à porter plainte.
Mais finalement, qui accuse l'autre? Ou carrément, qu'est-ce qui oppose ces deux parties dans ce dossier de grille tarifaire des billets d'avion?
Eh bien, pour comprendre, Mireille, il faut commencer par les commencements. Tout part du 3 juillet dernier avec la convocation par Modeste Bahati, ministre de l'économie, d'une réunion de la commission tarifaire en vue de lutter contre les bradages des tarifs des services aériens observés sur les réseaux domestiques. Comme vous le savez Mireille, la population s'est plaint que les billets d'avion coûtent très cher en RDC. Pour aller à Bunia par exemple, il faut débourser à CAA plus de 1 200 $ pour 3h30 de vol, alors que pour 8 heures de vol Kinshasa-Bruxelles, on paye moins, environ 850 $. Alors, à cette réunion convoquée par Bahati, ont pris part les experts des ministères de l'économie et des transports et des communications, les délégués des Fly CAA, Blue Sky et Congo Airways. La commission a recommandé les DGA à l'issue de ses travaux que les minimums des PKT pris au kilomètre transporté soient à 0,18 cents et les maximums à 0,24, contrairement au PKT de 0,32 cents appliqué par Fly CAA dans son monopole des fêtes. Alors précisons que le PKT est la base sur laquelle se calculent les prix du billet d'avion. C'est en fait les tarifs de vente sur la productivité. Et cette productivité est égale passager réellement transporté multiplié par la vitesse horaire. Dans tout ça, on table sur les taux de remplissage de l'avion. C'est pourquoi on parle de PKT minimum et PKT maximum. Le PV de cette réunion a été signé par toutes les parties sauf par Fly CAA. Curieusement, s'indigne-t-on au ministère de l'économie. Dans sa lettre du 23 juillet, le patron de Fly CAA prétend vouloir les minimums du PKT à 0,11 cents et accuse Bahati de s'y opposer.
Mais Innocent, n'est-ce pas là une bonne initiative de CAA de proposer le PKT à 0,11 au lieu des 0,18 de la commission?
Visiblement oui, mais réellement non. Selon les experts du ministère de l'économie et des transports, avec ces tarifs proposés par Fly CAA, cette compagnie ne manifeste pas sa bonne foi, mais elle développe plutôt la stratégie de faire disparaître les concurrents qui vont travailler dans la perte. Stratégie déjà développée par elle dans le passé pour recevoir, maintenir les monopoles sur les grandes distances, toujours selon ses experts. Et ces derniers accusent CAA d'avoir fait disparaître Wimbidira, mis en difficulté Ewabora et Fly Congo qui a finalement fusionné. Et lorsqu'elle a les monopoles, elle fixe les prix à son vouloir, ce qui fait que vous pouvez prendre à 4 les mêmes vols CAA pour la même destination, mais vous avez chacun payé pour la même classe des prix très différents. Et c'est ces bradages-là que le ministère de l'économie dit vouloir combattre. Voilà tout Mireille.
L'affaire est donc en justice.
Oui, elle est en justice pour diffamation.
Merci Innocent. Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition mise en onde par Jean-Noël Mokondo et suivie par vous. Merci.